Bonjour à tous, bienvenue dans ce deuxième épisode de fin janvier du Forum des Sports. Il couvrira aussi le mois de février. Voilà, on était impatients de vous retrouver, impatients de retrouver cette antenne. Et moi, j'étais très impatient de retrouver Baptiste. Comment ça va, Baptiste?
Bonjour à tous, bonjour à toutes, salut Arnaud, ça va bien et toi?
Ça va très bien. On va entrer dans le vif du sujet dans cette émission. Fin janvier, février, les vacances d'hiver sont terminées. Le régime post-Noël est terminé aussi et on rentre dans les grandes saisons sportives. L'actualité sportive est revenue à son top niveau. On va parler de gros sujets. Alors, pour commencer, Baptiste, tu vas nous parler de l'Euro de hand.
Ouais, du sacre des Français.
C'était hier, on l'a bien vu. En plus, c'était diffusé sur TF1. Toute la France a pu voir notre équipe. Moi, je vous parlerai ensuite du rugby, la Coupe d'Europe. Alors oui, je sais bien qu'il y a eu une journée de top 14 hier, mais là, ce qui va m'intéresser, c'est la Coupe d'Europe. Cette bonne Coupe d'Europe de rugby, qui compte moins que la Coupe d'Europe de foot, on se l'accorde, mais qui est quand même un petit peu jouissive. Ensuite, Baptiste nous parlera de l'Open d'Australie.
Ouais, retour sur le sacre de Sinner et de Sabalenka.
C'était hier aussi la finale.
C'était hier aussi, ouais.
Ouais, dimanche 28 janvier, chargé. Hein. Et pour terminer, je vous parlerai de foot. Mais pas de Ligue 1, pas de foot de club, pas de Barcelone, même si j'aime cette équipe, je préfère ne pas vous évoquer des choses tristes. Je vous parlerai de la Coupe d'Afrique, de la Coupe d'Asie, voilà, on va voyager. Les coupes continentales prennent place en ce début d'année. On le rappelle, cette année, c'est 4 coupes continentales qui se jouent. La Coupe d'Afrique et la Coupe d'Asie en ce moment, en début d'année. Et cet été, ce sera la Coupe d'Europe des Nations et la Copa América. L'Euro de foot et la Copa América cet été. Mais pour l'instant, je ne vais pas être médisant avec nos amis asiatiques et africains. Mais c'est l'avant-goût, l'entrée en matière 2024 avec la Coupe d'Afrique et la Coupe d'Asie. Alors bon, après tout ce blabla introductif mais nécessaire, on va commencer avec l'Euro de hand, Baptiste.
Ouais, tout à fait. Donc d'abord, avant d'attaquer toute chose, je voulais dire que le meilleur parcours d'une équipe de France masculine lors d'une année olympique, et d'un tournoi olympique donc, c'était une troisième place lors de l'Euro 2008 au Danemark. On va revenir d'abord sur le parcours des Français, donc une première phase avec une démonstration face à la Macédoine et le pays hôte, l'Allemagne, et un match nul contre la Suisse. La France accède donc facilement au tour principal, 4 matchs à disputer en plus, 4 victoires contre des nations solides comme la Croatie ou la Hongrie, et 2 victoires faciles, entre guillemets, contre l'Autriche et l'Islande. Avant cette demi-finale donc contre la Suède, les cadres ont répondu présents, comme Nicolas Karabatic, 39 ans, qui est devenu le meilleur scoreur de l'Euro de l'histoire. Mais la petite surprise de cet Euro de hand avant les demi, c'est l'émergence au poste de gardien de but Samir Belhassen. Le portier de Kiel en Allemagne vient bousculer la hiérarchie à 6 mois des JO.
Ah, parce que Karabatic, gros palmarès. Hein.
Ah ben, c'est le plus beau palmarès du hand français. Il avait l'occasion d'ajouter une quatrième breloque européenne avec cette fin de tournoi contre la Suède et contre le Danemark. Mais la demi-finale contre la Suède, c'était vendredi. C'était le même adversaire que la dernière finale de l'Euro, où les Français avaient perdu et avaient fini quatrième de cet Euro. C'est surtout la 9e confrontation lors des 10 dernières compétitions continentales et intercontinentales. Dans les 4 derniers matchs d'une compétition, c'est-à-dire les demi, match pour la 3e place et bien sûr la finale. Que dire de cette demi-finale, si ce n'est une demi-finale d'anthologie dont tous les Français, je pense, amoureux de hand, se souviendront. 6 buts d'avance à la mi-temps, on pensait que c'était quand même plié. Avec 8 arrêts de Belhassen, donc une défense assez solide et une attaque en réussite. Mais il y a un but qui fera date dans l'histoire, c'est le but d'Elohim Prandi qui permet aux Français d'arracher la prolongation sur un but là aussi mythique. Pour vous expliquer un peu, c'était la dernière action, c'était un tir un peu de la vie ou la mort, quoi, parce que sinon on aurait perdu. Et il était face à Sikolas, ce Suédois de 2 mètres, et il a réussi à contourner le mur, envoyer une praline dans les buts de Palika en cédant de la barre. Bref, un but mythique, victoire après en prolongation, 34-30. On affronte donc en finale les Danois qui se sont défaits de l'Allemagne, le pays hôte donc, pour un remake de la dernière finale des championnats du monde l'an dernier. On a assisté à une partie ultra serrée, je sais pas si tu l'as regardé Arnaud, entre deux grandes nations du handball. Alors on a eu un peu du mal à, on a eu du mal à être efficace en attaque, mais on a surtout été solide défensivement. Quand je dis ça, je pense surtout à Dikamem qui est dans l'heure de jeu est à 0 sur 5 et il marque quand même deux buts en prolongation. La France gagne en prolongation. Nous voilà champions d'Europe pour la quatrième fois de l'histoire.
Ouais, parce que moi, c'est vrai que je regarde je regarde pas de handball, quoi. Je suis de très loin quand ça passe aux informations, mais c'est tout. Et c'est vrai que là, ce coup franc de... Alors, j'ai pas son nom.
Elohim Prandi, ouais.
Elohim Prandi, oui.
En plus,
À
il a
chaque
une
fois...
histoire un peu. Enfin, vas-y, je te laisse finir, je
Non,
dirai
mais parce
après.
qu'à chaque fois, ça m'impressionne comment il tape ses coups francs en sacrifice, quoi. C'est-à-dire en se laissant tomber par terre.
Ah ouais, c'est complètement à l'horizontale, il envoie, je crois
Ah
que c'était
ouais.
118 km/h,
Ah ouais.
c'est assez impressionnant quoi. Surtout qu'il a une histoire un peu particulière, parce que c'était en réveillon, alors il y a 2 ou 3 ans de la nouvelle année, à la sortie d'une boîte de nuit, s'était fait poignarder quand même dans le dos. Donc il revient un peu de loin et surtout il a été bon aussi dans le Money Time face aux Danois. Donc c'est chouette, c'est cool. On espère le même dénouement à Paris cet été avec un titre olympique.
Il est très courageux et très valeureux. Et puis par contre, alors j'ai pas son nom non plus, mais le grand Danois chevelu, là, il nous en a fait voir.
Hansen, Mikael
Ouais.
Hansen, oui, bah lui aussi c'est une légende de son sport. Hein. Il a peut-être le même âge que Karabatic ou un an de moins. Mais lui aussi, il a un palmarès XXL avec son pays. Il a, je sais pas quoi, une Ligue des Champions. Donc, c'est un très très bon joueur.
On est fiers de notre pays,
Fier de. Oui,
fiers du
oui, on
handball.
est fier du
Bravo à
handball
eux, ouais.
français. Même les Françaises, elles ont été championnes du monde là, récemment. Donc,
Et puis
c'est chouette.
handball, gros sport français, j'ai pas le nombre de licenciés, mais il y a pas mal de Français
Ouais,
licenciés dans ce
ouais, ouais.
sport. C'est bien, alors
Tu vas parler du rugby là, toi, non?
on va changer de sport.
Changer de sport.
Sur un sport que je connais un peu mieux, parce que j'aimerais bien connaître le handball, mais bon, au bout d'un moment, on peut pas regarder tous les sports, je suis
Tout à
désolé mes
fait.
amis du handball. Moi là, je vais vous parler du rugby, Coupe d'Europe, la grande Coupe d'Europe tout d'abord, la Champions Cup. Qui s'est terminée, une phase de poule. Alors on rappelle la formule un petit peu compliquée. 4 poules de 6 équipes. 2 équipes françaises, 2 équipes anglaises et 2 équipes de l'United Rugby Championship à chaque fois. Sachant que les 2 équipes du même pays ne peuvent pas s'affronter. Donc c'est-à-dire que par exemple là, je regarde la poule numéro 1. Bordeaux et Lyon figuraient dans cette poule, mais ils ne s'affrontaient pas. Ils affrontaient chacun 4 équipes étrangères. Et donc justement, dans notre poule numéro 1, l'UBB a fini première, UBB première, 3 victoires, une défaite en 4 matchs, première des 6. L'UBB a montré les muscles et il est sorti premier d'un groupe très relevé, tous les matchs ont été assurés. J'ai été épaté notamment par la prestation face aux Saracens, une victoire 55 à 15 à domicile, et par le dernier match contre les Bulls aussi, face aux Bulls en Afrique du Sud. Défaite 46-40, mais face à une très grosse adversité des Bulls qui ont livré un très gros match notamment. Bordeaux a su serrer son adversaire, a su recoller au score à de nombreuses reprises et prendre au final le bonus offensif et le bonus défensif. 17 points sur 20 possibles, ça va assurer aux Bordelais de recevoir en huitième et en quart de finale. C'est toujours intéressant de recevoir les matchs dans des confrontations uniques. Et dans la même équipe, dans la même poule, il y avait une autre équipe française, Lyon, qui a terminé 3e sur 6, qui connaîtra aussi les huitièmes de finale. Pour Lyon, ça a été un petit peu plus compliqué, mais grâce à de grosses prestations offensives, Lyon a notamment décroché 3 bonus offensifs en 4 matchs. Ça veut dire que sur 4 matchs, il y en a 3 où les Lyonnais ont inscrit 4 essais ou plus. Ils ont donc décroché cette 3e place devant des équipes comme le Saracens, comme le Connacht ou comme les Bristol Bears. Grosse prestation des équipes françaises dans cette poule numéro 1. Grosse prestation aussi dans la poule numéro 2 de Toulouse, qui finit avec un full house. 20 points sur 20 possibles, 4 victoires, 4 bonus offensifs, face à de belles écuries, notamment les deuxièmes du championnat anglais, les Harlequins et les Bath, qui sont deuxièmes ex aequo dans le championnat anglais, et qui ont tous les deux été battus par Toulouse. Notamment, oui, voilà, la semaine dernière, une victoire 31-19 des Toulousains face à Basse avec un match très maîtrisé, match maîtrisé aussi contre les Harlequins. Alors certes, il faudra continuer sans Antoine Dupont, qui rejoindra l'équipe de France à 7, mais il y aura aussi le retour de Ntamack. Et ce ne sera pas en période de doublon, cette période de doublon toujours cruciale pour les Toulousains. Bah, la Champions Cup se déroule après le tournoi destination, donc Toulouse aura tous ses internationaux. Dans la même poule, il y avait une autre équipe française, le Racing 92. Alors le Racing 92, c'est seulement une victoire en 4 matchs.
Ah, ils ont eu chaud, ouais.
Ah, c'est un petit peu le symbole de cette nouvelle formule de Champions Cup que moi j'aime pas trop. C'est-à-dire que pour moi, une victoire en 4 matchs, tu mérites pas d'aller en 8e de finale. Mais ils ont su profiter d'une faible adversité, notamment par l'Ulster. Ulster qui était très décevant. Et les Cardiff qui ont encaissé, je crois, 197 points en 4 matchs. Ah oui. 0 victoire, 4 défaites pour Cardiff. Bon, bah, le Racing en a profité pour se qualifier en 8e de finale. Dans la poule numéro 3, les équipes françaises ont été décevantes. Toulon, 4 défaites en 4 matchs, 2 points seulement. Un dernier match et une défaite à Glasgow, 29-5. Voilà. Toulon était très nul en Coupe d'Europe, il faut le dire. Mais il va falloir se concentrer sur le top 14 maintenant. Et c'est pas la même pour nos Bayonnais, nos amis Bayonnais, qui ont débuté par un match nul au Munster. Match nul historique, car le Munster, pour ceux qui ne sont pas familiers au rugby, c'est une institution. C'est comme si le RC Lens allait faire match nul au Real de Madrid, quoi, pour dire. Match nul au Munster, mais 2 matchs après moins maîtrisé, une défaite à domicile face à Glasgow, une déculottée reçue à Northampton, ils prennent plus de 60 points à Northampton, et une dernière victoire très encourageante, où on a sorti les Bayonnais plus à l'aise. Voilà, dernière victoire 40-17 face à Exeter, à Jean Daugé, avec un Bayonne qu'on connaît, survolté devant ses supporters basques. Bayonne est reversé en Challenge Cup avec cette cinquième place. Voilà, comme illustration, Bayonne termine avec le même nombre de points que le Racing Métro, mais comme ils ont une poule plus relevée, bah, ils terminent cinquième, ils ne voient pas les huitièmes de finale, eux. Et pour la quatrième et dernière poule, ça a été aussi compliqué pour le Stade français, bah, comme Toulon, hein, 2 points en 4 matchs, 4 défaites, 0 victoire. Des Parisiens qui ne se sont pas qualifiés dans le top 6 l'année dernière pour jouer cette Coupe d'Europe, mais plutôt pour jouer les barrages. Et à l'inverse, La Rochelle, ça a été compliqué. C'était compliqué pour nos champions d'Europe en titre. 2 défaites lors des 2 matchs inauguraux face au Leinster et face aux Stormers. Mais 2 victoires ensuite face au Leicester. Et un dernier match très maîtrisé face aux Sale Sharks. Une victoire 37-24 en terre anglaise. Mais le score ne reflète pas trop la physionomie du match parce que les Rochelais ont bien maîtrisé ce match. Ils prennent 4 essais en fin de match. Mais c'était maîtrisé. Et pour ces huitièmes de finale, alors bon, je vais vous donner les oppositions des clubs français. Les Lyonnais partent aux Bulls, très compliqué. La Rochelle part aux Stormers, très compliqué. Bordeaux reçoit les Saracens, ça va passer normalement pour nos Bordelais. Oui. Les Bordelais, on l'a vu, avec une ligne de trois quarts très efficace qui a épaté toute l'Europe. Et enfin, une confrontation française, les Toulousains reçoivent les Racing Men. Alors, c'est un match qu'on a vu aussi hier soir.
Qu'on a vu hier soir, oui.
Ouais, hier soir.
Victoire du stade.
Ouais, ouais. Alors, pour moi, ce sera tout l'enjeu de ce match. Est-ce que le Racing Métro va considérer ce match comme un match face à Toulouse ou comme un match de Coupe d'Europe? Parce que les Racing Men n'étaient pas transcendés par l'enjeu de la Coupe d'Europe. Alors qu'hier, on a vu qu'il avait affiché un très bon niveau. Première défaite à domicile du Racing en championnat. Mais ils ont affiché un bon niveau de jeu hier. Et moi, j'ai une seule petite remarque pour ces huitièmes de finale de Champions Cup. C'est que c'est dommage que sur 8 matchs, on ait seulement une confrontation inédite. Le Harlequins Glasgow n'a pas été joué cette saison. Mais sinon, tous les autres, Exeter Bath, bah, il se joue en championnat anglais. Toulouse Racing, il se joue en championnat français. Et tous les 5 autres huitièmes de finale, sans exception, sont des matchs qu'on a vus en phase de poule. Moi, ça me déçoit un petit peu. C'est dommage que ce soit pas comme en Champions League de foot masculin. Je sais pas comment ça se passe pour le foot féminin, mais en foot masculin, deux équipes qui sont issues du même groupe de qualification ne peuvent pas se rencontrer à huitième de finale.
Pareil pour les filles aussi, ouais. Ouais, ça semble plus logique, hein, c'est une formule dont on a l'habitude et qui semble la plus logique. Ouais.
Et moi, ça me décevrait un petit peu à la place des supporters bordelais qui se qualifient en huitième de finale, qui reçoivent les huitièmes de finale, bon, pour au final encore recevoir les Saracens. Bon, c'est quand même les Saracens, mais c'est pas trop de diversifier.
Saracens d'Owen Farrell qui va signer au Racing l'année prochaine.
Ouais, c'est vrai. Alors, on a vu dans un premier temps le démenti du Racing pour dire non. Alors, on est flatté que Owen Farrell veuille de nous, mais pour l'instant, bas de contrat. Bon, bah, 3 jours après, le contrat est tombé.
Et puis Owen Farrell qui a décidé de se mettre en retrait de la sélection. La sélection anglaise qui va disputer le tournoi des destinations, là, tu vas nous en parler un peu.
Ouais. Alors, le remplaçant d'Owen Farrell, il est déjà tout trouvé. Finn Smith, 21 ans. Alors, pour moi, c'est lui le remplaçant d'Owen Farrell. Finn Smith qui joue à Northampton, si je ne m'abuse, et qui est vraiment excellent en ce début de saison. Alors, je l'ai vu en Coupe d'Europe. Pour moi, c'est lui le remplaçant d'Owen Farrell à long terme. Alors, je ne sais pas s'il va être installé dès ce tournoi destination, car il y a encore George Ford au poste de numéro 10. Là, j'ai le squad anglais sous les yeux. Alors, pas mal de nouveaux noms, notamment à l'aile Emmanuel Feyi-Wabosso. Alors, lui, les commentateurs vont un petit peu galérer pour les premiers matchs, mais je vous l'assure, c'est un excellent ailier, excellent en duel offensif ou défensif. Je pense qu'on va très vite le voir titulaire avec cette équipe d'Angleterre. Et ensuite, de nouveaux noms aussi, comme par exemple au poste de numéro 13 avec Tommy Freeman, numéro 13 aussi de Northampton, qui va débarquer dans cette équipe anglaise et qui va vouloir prendre sa place. Pour moi, il a le gabarit pour y être, Tommy Freeman. Après, ça ne change pas trop, on le sait, c'est une équipe anglaise.
Et pour être meilleur, s'ils enlevaient cette règle, comme quoi les joueurs anglais qui jouent dans les championnats étrangers ne peuvent pas être sélectionnés en sélection. Bon, on pense à il y a Arundel, il y a
Jack Willis.
Jack Willis au Stade français, la paire de centres au Stade français.
De Marchand.
C'est Marchand et Ward.
Ouais, Jeremy Ward.
Donc, il pourrait avoir une plus belle équipe que ça. Bon, tant mieux.
Ouais, surtout que Steve Borswick fait l'enfant pourri gâté, parce que certes, il a du talent en troisième ligne L, mais moi, je trouve ça un peu dommage de ne pas récompenser des joueurs comme Tom Willis, qui l'année dernière était allé à Bordeaux, qui est retourné en Angleterre pour disputer la Coupe du Monde et disputer les Six Nations. Tom Willis n'a été convoqué. Alors, je sais pas, est-ce qu'il a été convoqué à la Coupe du Monde ?
Je ne crois pas.
En tout cas, il n'est pas convoqué à Six Nations. Oui, pareil pour Zach Mercer.
Ouais, ce que j'allais dire. Ouais.
Zach Mercer, meilleur joueur du top 14, qui était à Montpellier, ouais, qui est retourné en Angleterre pour espérer avoir sa place en Coupe du Monde et aux Six Nations. Pas convoqué en Coupe du Monde, pas convoqué aux Six Nations. Zach Mercer a annoncé qu'il allait plus réfléchir à l'équipe d'Angleterre. Voilà. C'était son but, qu'il était parti à Montpellier pour se montrer, pour revenir triomphant, et que bah, apparemment, c'était pas suffisant.
Je pense qu'il prendrait bien, là, Montpellier, dans la situation où ils sont.
Ah ouais, ouais. Bah, Montpellier, ils ont aussi leur numéro 8 anglais, là, Simons, qui est excellent aussi. Bon, bah, au final, au poste de numéro 8, on reste avec les anciens, Dambrandt, le nouveau Cunningham South, qui va sûrement être titulaire, parce que c'est pour moi le seul numéro 8 de talent dans ce squad. Et après, oui, on reste avec les anciens, les Chessoum, les Georges, Théodan, Ben Hur. Cette équipe reste avec ses cadres.
Parle-nous des Français maintenant.
Les Français. Alors, cette équipe.
Revanchard, sûrement après cette fin de Coupe du Monde.
Cette équipe est alléchante, je vous le dis bien. Alors, c'est pas familier à Galtier de prendre de nouvelles têtes, mais là, il a innové. Esteban Abadi de Toulon, maître en touche, maître gratteur, maître dans les rucks. Esteban Abadi qui est un profil assez complémentaire avec le reste de ce qu'on a en troisième ligne. Comme nouvelle tête aussi, nous pouvons citer Mathias Alagahu, le deuxième ligne de Toulon. Surprise, pour moi c'est la seule surprise de cette équipe parce que tous les autres nouveaux étaient attendus.
Ouais, Gibert aussi.
Ouais, Alagahu n'était pas attendu. On a Antoine Gibert pour couvrir les postes de numéro 9 et de numéro 10. Nico Deporter, qui est excellent avec l'UBB en début de saison, le numéro 13, qui pour moi, à l'instant T, est meilleur que Gaël Ficou. Après, oui.
Je suis d'accord avec toi.
À voir comment Fabien Galtier fera son management. Est-ce qu'il laissera Ficou titulaire ? Est-ce qu'il mettra Deporter ? Est-ce qu'il mettra notre petit Emilien Gailleton ? Notre petit Palois ? On l'espère. Alors oui, en Palois, on aurait pu avoir aussi Hugo Radou. Qui n'a pas été récompensé pour l'instant. Théo Atisokbe a fait la semaine avec l'équipe de France comme partenaire d'entraînement. Il est rentré ce week-end pour jouer avec la section paloise. Mais Théo Atisokbe, qui lui aussi a déjà un petit pied en équipe de France, c'est à prendre. On a aussi la blessure de Melvin Jaminet. Melvin Jaminet qui était convoqué à la base. Alors moi, j'étais pas très content parce que moi, c'est pas un joueur que j'aime beaucoup. J'aurais préféré voir des Romain Burros ou des Brice Dulin qui ont un profil plus alléchant. Mais Melvin Jaminet s'est blessé et en remplaçant, c'est Léo Barré qui fait son entrée dans l'équipe de France. Léo Barré qui est excellent aussi, qui peut jouer 10, qui peut jouer centre, qui peut jouer arrière. Léo Barré, très jeune. Moi, j'aime beaucoup. Donc, si Mathis Lebel en nouveau, pas souvent convoqué, voilà. Après le reste, vous les connaissez déjà si vous suivez le rugby. Antoine Dupont et Romain Ntamack vont nous manquer, mais voilà, Romain Ntamack blessé qui attend son enfant, j'ai vu hier ça, ouais. J'ai vu qu'il ouais, allait vu attendre ça. Son premier enfant, Romain Ntamack. Et Paul Gabriel aussi, c'est à souligner, Paul Gabriel qui n'avait pas été pris lors du premier mandat de Fabien Galthié, qui était excellent la saison dernière et qui vient renforcer ce poste de numéro 4 qui était un petit peu désert.
Il postule pour être titulaire face à l'Irlande, je pense. Ouais. Parce que Méafou, malheureusement, ça devait être un nouveau, lui qui a été naturalisé français après la Coupe du Monde de rugby. On l'attendait tous avec son profil atypique, un profil à la Will Skelton un peu. Ce qui aurait pu avoir Antonio et en 5, Méafou, ça aurait été en mêlée assez solide. Mais bon, il devrait venir sur la fin du tournoi si ça se passe mieux, si sa rééducation se passe mieux pour
et puis on perd on perd pas trop de tonnage parce qu'en remplaçant c'est Pozzolo Tuilagi.
Ouais. Ah ben c'est
j'espère que vous avez vu ces images de Pozzolo Tuilagi qui a invité toute sa famille et Marcoussi pour faire un grand barbecue de porc. C'était assez ouais, assez marrant.
C'est la génération des moins de 20 ans là, qui pousse, ouais. Qui frappe à la porte de l'équipe de France A. Ah, c'est bien ça.
Alors, génération des moins de 20 ans, on a aussi Lenny Nouchi, ouais. Qui remplace la blessure d'Anthony Jelonche, puis la blessure d'Alexandre Roumat, et c'est Lenny Nouchi qui est appelé. Voilà, bon, on va passer.
Il a joué hier, il n'est pas blessé, Roumat. Si.
Roumat ? En tout cas, je ne sais pas si c'est petite gêne musculaire ou pas, mais il n'est pas gardé pour la suite de ce tournoi. Je sais pas les raisons de Fabien Galthié. Pour moi, c'était une petite gêne musculaire, parce que je vois pas pourquoi il prendrait quelqu'un pour une semaine pour le relâcher. Et nos Français seront opposés lors du premier match, on le rappelle, aux Irlandais, vendredi soir. Ouais.
De bêtes blessées, suite à cette Coupe du Monde.
Ouais, vendredi soir, à Marseille, en France. Et les Irlandais qui se présentent aussi avec une grosse équipe. Alors, pas beaucoup de nouveaux dans cette équipe irlandaise. Mais un nouveau chantier au poste de numéro 10 qui, ouais, pour Sexton remplacer plus, ouais. Jonathan Sexton. Alors pour moi, le numéro 10 titulaire sera Jack Crowley, numéro 10 titulaire du Munster, qui, je l'espère, sera aligné avec son comparse du Munster, Greg Casey, même si Gibson Park pourrait garder sa place en tant que numéro 9.
C'est une valeur sûre après Gibson Park à son poste.
Ah oui, Gibson Park. Mais moi, Casey, il m'excite un petit peu, ce numéro 9 dans le style vif.
La complémentarité avec le 10 aussi...
Il faudra regarder. Et après, oui, bon, pour aller assez vite sur cette équipe anglaise, c'est du classique. Keenan, Ringrose, James Lowe, Bundy Aki. Et puis devant, leur troisième ligne énorme, O'Mahony, Van der Flier, Kylan Doris, Timoni qui a été énorme en Coupe d'Europe aussi. Et en première ligne aussi, bon, on reste avec les mêmes Tact Furlong, Bilham, Sheehan, ouais. Andrew Porter. Et tiens, d'ailleurs, Andrew Porter, il me fait penser. Est-ce que tu as regardé, toi, le début de la série Netflix sur les Six Nations ?
Non, pas du tout. Je t'avoue que j'ai pas trop eu le temps. Faudrait que je regarde, hein, voir un peu comment ça se passe de l'intérieur. Voir si c'est une réussite, comme en Formule 1 ou même sur le vélo, sur le Tour de France, ils avaient fait ça, Netflix.
T'as regardé celle sur le vélo ?
Ouais.
Ah,
ouais,
moi,
ouais.
J'ai pas regardé. Moi, j'ai regardé les premiers épisodes de Six Nations, là.
Moi, j'aime bien.
Alors, c'est pas un style qui correspond à ce qu'on a l'habitude de regarder sur le rugby. C'est comme des mini-reportages, des mini-entretiens avec les joueurs, entrecoupés des matchs, pour quand même lier à la réalité du rugby. Mais moi, j'aime bien ces petits entretiens, avec notamment Andrew Porter, qui explique voilà, que quand il était jeune, voilà, il a été victime de boulimie, qu'il a l'habitude de se sentir seul. Moi, j'aime bien voir des sportifs de haut niveau parler de ça. Libérer la parole et aussi montrer que voilà, c'est des choses qui sont acceptables dans la vie d'un homme. Oui. Voilà, moi j'aime bien.
Puis on y voit aussi Russell, je crois.
Ouais, Finn Russell.
Qui se décrit comme le Messi du rugby.
Ah bah, Finn Russell, ça lui colle bien de passer sur Netflix à ce joueur fantasque. Moi j'aime bien Finn Russell.
Très bon joueur.
Finn Russell qui a aussi un parcours exemplaire. Hein. Finn Russell qui a été maçon, on le rappelle, lors de ses 20 ans, parce qu'il n'était pas sûr d'être rugbyman, donc voilà, il est passé maçon. Au final, il a percé dans le rugby. Et ensuite, bon, pour aller très vite sur cette fin de Six Nations, l'équipe galloise a été annoncée et sera orpheline de Louis Riz-Amit qui part
en NFL.
Ouais. En NFL.
Se tester.
Ouais. Ensuite, les Italiens ont aussi une grosse équipe, les Italiens, avec notamment Ange Capozzo, qu'on a vu hier très en forme lors de son match face au Racing, ouais, mais aussi...
C'est Quesada qui reprend cette équipe.
Ouais, Gonzalo Quesada.
Curieux de voir ce qu'il va proposer, ce qu'il va faire, parce que l'Italie, c'est quand même... T'as de bons joueurs, quoi. Ouais. De rien.
Et puis, je pense que Quesada a une mentalité qui correspond bien à cette équipe italienne. On l'avait vu avec le Stade français. C'est un entraîneur très familial, très ami avec ses joueurs. Et je pense que cette équipe aura de quoi faire. Parce qu'il y a aussi un gros paquet d'avant, les piliers Cecciarelli, Fiscotti, le talonneur Nicotera. C'est très bon. La troisième ligne, Canone, Zuliani. Moi, j'aime bien cette équipe.
Oh, Garbici en 10.
Ouais.
Avec Alan aussi. C'est de bons joueurs, hein, mine de rien.
Ouais, ouais. Bah alors, Tommy Alan, je ne sais pas s'il sera titulaire à l'arrière ou si ce sera Ange Capozzo. Mais bon, hâte de voir ça. Et est-ce qu'on a oublié une équipe? Non, je crois pas. Si, les Écossais.
Les Écossais, oui.
Les Écossais.
Russell, mais...
Les Écossais, avec cette ligne de trois quarts énorme. Ben White, le Toulonnais, Finn Russell, Hugh Jones, Tuipolotu, Ozel. Au centre, excusez-moi, parce qu'Ozel, il y a de bons clients aussi, Darcy Graham et Duane Van Der Meer. On a Blair Kinghorn, le nouveau Toulousain. Et devant, ça reste toujours aussi solide avec les frères Fagerson, Richie, Schumann, Sam Skinner.
Ouais. Voilà, ouais, c'est solide.
J'aime bien cette équipe. Pour le calendrier des Six Nations, alors, on l'a dit, première réception des Irlandais.
On reçoit trois fois, non? On est une année... année paire, on doit recevoir trois fois la France. Je crois qu'on reçoit... On finit par les Anglais, le dernier match. Et on reçoit l'Italie à Lille.
Exactement. On reçoit l'Italie lors de la troisième journée, le 25 février, le lendemain de l'anniversaire de mon père. lors de la deuxième journée, on ira en Écosse. Et lors de la quatrième journée, bon, on ira au Pays de Galles. Moi, bon, ça va, c'est pas mal de recevoir les Irlandais et les Anglais, c'est toujours un avantage. Même si ce petit voyage en Écosse pourrait nous être préjudiciable, avec une très grosse équipe d'Écosse qui aura envie de faire un top 2 cette année. Moi, j'y crois. Pour le Grand Chelem, ce sera compliqué. Grand Chelem, j'y crois pas. L'adversité sera trop forte.
Ouais, mais... tu sais jamais. Si tu gagnes contre l'Irlande, ça peut te donner un gain de confiance. Ça peut te rebooster ça. Puis je pense quand même qu'ils sont vachement revanchards. Donc, ils vont pas vouloir perdre un match. À voir. On verra.
C'est vrai. Et puis bon.
Ça serait beau, France-Angleterre. Un dernier match comme ça, celui qui gagne, il fait le grand chelem. Ça serait très intéressant. Ouais.
Oui, puis surtout que cette équipe d'Angleterre, elle a du très gros talent. Alors, Steve Borthwick, est-ce que c'est l'homme de la situation? Je sais pas. Après, est-ce que je suis bien placé pour en parler? Je sais pas, je suis pas dans le groupe. Faudra voir comment les Anglais se dépatouillent. Mais en tout cas, l'effectif, il est talentueux. Et c'est vrai que cette équipe d'Angleterre peut aussi très bien gagner le tournoi. Passe au
tennis.
Open d'Australie.
Open d'Australie, ouais, premier grand chelem de la saison. Et alors, bon, on va commencer chez les femmes avec le titre pour Aryna Sabalenka, son second d'affilée. Elle a fait un tournoi tout simplement parfait. Elle a concédé 0-7 en 7 matchs. Elle a encaissé deux moyennes, je crois que c'est 5 jeux par match. Elle a disposé en finale de la surprenante chinoise Zheng, 6-3, 6-2. Zheng qui avait profité d'un tableau quand même assez favorable pour se hisser pour sa première finale de Grand Chelem. Bon, elle sort pas de nulle part, elle a quelques références, elle est 12e mondiale quand même, la chinoise. Mais face à la puissance et le gros service de Sabalenka, difficile de rivaliser. Sabalenka donc fait le back-to-back. Swiatek avait perdu en 8e de finale. Donc à voir comment Sabalenka va enchaîner sur la saison sur dur là et sur terre battue, surtout ce qui n'est pas sa surface de référence. Et côté français, je ne sais pas si vous vous en souvenez, je vous avais parlé de Jannik Sinner pour la présentation de l'année ATP à venir. Ben, Jannik Sinner, lui aussi, il a fait un très gros tournoi. Il a battu Djokovic en demi-finale et Medvedev en finale. Il était mené quand même 2-7-0.
T'as Medvedev qui se prend la doublette hein, entre Nadal et Sinner. Ça fait deux fois qu'il perd des finales alors qu'il menait de 2-7.
Ouais, ouais, ouais. Ben là, Sinner, il était. J'ai vu aller que la fin de match, mais il était un niveau au-dessus. Il a son coup droit, vraiment, c'est dévastateur. Donc, Sinner remporte son premier grand chelem. Je pense le premier d'une longue série. Lui aussi, à voir comment il va poursuivre cette saison, parce qu'il avait fait une saison en boulet de canon, une fin de saison en boulet de canon l'an dernier. Avec un titre à Masters 1000, la Coupe Davis, et il avait battu deux fois Djokovic. Donc à voir comment ça se poursuit. Et puis, côté.
Et puis pour nos Français, oui.
De France, non, ben, pour une fois, on peut dire que. Alors, on est un peu peut-être rabat-joie, mais c'est quand même un beau tournoi côté français. 3 Français en deuxième semaine. Alors, chez les femmes, on a eu Océane Dodéen, qui a perdu ben, justement contre Zeng. C'est un bon tournoi de la part des Françaises en général. Il y avait aussi Clara Burel au troisième tour, ben justement elle a perdu contre Dodéen, donc c'est chouette en espérant que ça se poursuive. Et côté français, alors Manarino, l'exceptionnel Manarino,
le divin chauve,
vraiment un joueur que je pense que tout le monde kiffe. Ah bah, avoir joué,
on ne peut qu'apprécier des sportifs comme ça.
On ne peut qu'apprécier, ouais, un mec qui se prend pas la tête et tout. Il a perdu contre Djokovic en huitième de finale après avoir fait quand même 3 matchs en 5-7. Et le mec s'en est toujours sorti. C'est vraiment un plaisir de le voir jouer. Il nous gratifie de quelques points sympathiques à voir aussi. Et côté français, le second qui était en deuxième semaine, c'était Arthur Cazaux. Arthur Cazaux qui a bénéficié d'une wildcard, donc d'une invitation de réciprocité entre la France et l'Australie, qui s'échangent des wildcards lors des tournois des Grand Chelem. Il a performé, clairement, après un titre en Challenger, donc en second niveau à Nouméa début janvier. Il a pu préparer, grâce à cette wildcard, il a pu préparer correctement ce tournoi de l'Open d'Australie. Il a performé, il a battu Holger Rune, tête de série numéro 6. Et il n'y a pas eu photo, quoi. Il a joué sans calculer, en fait. Il s'est fait plaisir et il nous a fait plaisir. Lui aussi, quelques points magnifiques à voir. Il a confirmé, après, contre Greg Spoor. C'est le plus dur de confirmer. Greg Spoor. C'est un Hollandais qui était tête de série aussi, mais quand on performe dans ce genre de tournoi, c'est toujours compliqué de confirmer. Et il est tombé les armes à la main en 3-7 accrochés contre Hubert Hurkacz. Là aussi encore un nom difficile à dire. Bah, il a été un peu, sa préparation de huitième de finale était un peu perturbée parce qu'il avait eu la gastro, donc à voir comment il confirme lui aussi. Cette semaine il a eu une wildcard pour jouer un ATP 250 à Montpellier. On va voir ce qu'il y a
avec
à faire.
C'est pas Rune qui est aussi Montpellier
aussi,
oui.
Il a eu une wildcard. Montpellier, en plus, il est montpelliérain, Cazaux. Oui. Il va pouvoir, on lui souhaite, briller à la maison. Ça serait...
Est-ce que toi, tu l'attendais? Parce que moi, je ne le connaissais pas, Cazaux, avant le...
Honnêtement, bon, il faisait partie de ces jeunes prometteurs. Alors, il y avait Arthur Fils. Moi, perso, j'attendais plus d'Arthur Fils.
Van Aske aussi, qui a été pas mal, Van Aske.
Van Aché, ouais. Mais en vrai, on a une bonne génération, mais on attend plus qu'ils performent à haut niveau, c'est chouette. Là, on va continuer un peu la saison sur dur, avec des tournois en France, Marseille, Montpellier, il y a un ATP 500 à Rotterdam et à Doha, avant d'attaquer la saison des Masters 1000 aux États-Unis avec Indian Wells et Miami, avant d'attaquer la saison sur terre battue, là aussi qui va être excitante, avec Roland Garros en dessert, en chef-d'œuvre.
Et puis en hors-d'œuvre aussi avant les JO.
En hors-d'œuvre avant les JO aussi. Un tennis très chargé.
Parce qu'on fait entrée, plat, dessert, puis re-hors-d'œuvre, puis replat avec les JO.
C'est sympa. Ça va être sympa à suivre. Tout comme la saison de foot, là.
Ouais.
Il y aura l'Euro, les JO, mais tu vas nous parler de la Coupe d'Afrique des Nations et de la Coupe d'Asie des Nations.
Et oui, parce que moi j'aime bien ces compétitions où ça change du football européen, du football classique qu'on a l'habitude de voir. Voilà, ça change des Manchester City, ça change des Brentford, ça change des AC Milan. Là, c'est du foot comme je l'aime, c'est celui qui a le plus la niaque qui l'emporte. Alors certes, bon, j'ai regardé des bouts de match, le niveau technique de cette CAN n'est pas fameux. On a vu des missiles au-dessus des cages comme je n'en ai jamais vu dans le football professionnel de ce niveau. Mais ça se voit que les joueurs sont pris au trip par cette compétition et moi c'est pour ça que j'aime cette compétition. Alors dès la phase de groupe, il faut s'accrocher dans la CAN et c'est ce que n'ont pas fait les Algériens. Alors les Algériens de Jamel Belmadi, Belmadi qui a notamment été licencié après cette déconvenue. L'Algérie dernière de son groupe et qui permet à la surprenante Angola de se qualifier. Derrière, le Burkina Faso fait le taf et la Mauritanie, petit pays de 4 millions d'habitants. Alors c'est un des pays les plus faiblement peuplée en termes de densité d'habitation du monde, la Mauritanie. Mais ils se sont qualifiés pour ces huitièmes de finale. Ils joueront aujourd'hui, je crois, d'ailleurs, contre le Cap-Vert.
Oui.
Autre groupe, le Mali confirme son statut de favori et se qualifie en première place devant l'Afrique du Sud et la surprenante Namibie. Très rapide équipe des Namibies. Et c'est la Tunisie qui se fait avoir aussi. Voilà, il faut faire attention quand on est un gros en canne. Les Marocains ont fait attention, les Marocains ont fait très attention et ont réussi à glaner 7 points. Ils ont réussi à mettre la qualification et à l'assurer avant ce dernier match. Face à la Zambie, je crois, ouais. Le dernier match qu'ils ont disputé, les Marocains.
Ce qui a permis à la Côte d'Ivoire de se qualifier.
Ouais.
On y reviendra après.
Et oui, les Marocains qui se sont qualifiés, les Congolais de la République démocratique du Congo en deuxième place également. Et la RDC qui s'est aussi qualifiée hier, mais on y reviendra. La Guinée équatoriale a terminé première de son groupe. La Guinée équatoriale, précise.
Parce que la Guinée-Bissau, Guinée équatoriale.
La Guinée équatoriale a déjà joué en plus la Guinée-Bissau et la Guinée, mais la Guinée équatoriale qui était pour moi ma surprise de cette phase de groupe.
Ouais.
Parce que dans une poule composée du Nigeria et de la Côte d'Ivoire, la Guinée équatoriale ne perd pas un match, gagne 4-0 face à la Côte d'Ivoire. Elle a exterminé les envies des Ivoiriens. Les Ivoiriens qui se voyaient déjà hors du tournoi, alors que grâce aux résultats suivants, ils ont réussi finalement à se qualifier en tant que meilleur troisième. Mais voilà, belle équipe de la Guinée équatoriale, belle équipe du Nigeria qui, malgré quelques petites faiblesses dans la construction du jeu, a su se qualifier grâce à un extraordinaire Lookman, très bon Victor Osimhen. Autre groupe, et le Sénégal n'a pas flanché, Sénégal, 3 victoires en 3 matchs. Le Cameroun fait le travail aussi pour se qualifier en huitième de finale, comme la Guinée qui s'est qualifiée en tant que meilleure troisième. La Gambie a vu ses 3 rouleaux compresseurs lui passer dessus. La Gambie qui n'a pas fait un seul point. C'est dommage pour la Gambie. Je crois pas que je vous ai fait tous les groupes. Peut-être que je vous ai oublié un groupe. Je vous ai oublié le groupe du Cap-Vert. Le Cap-Vert qui s'est qualifié, oui. Avec un énorme coup franc de bébé face à... Je sais plus contre quelle équipe c'était. Ce coup franc de 40 mètres de bébé. Mais c'était impressionnant. Pour les huitièmes de finale, on a eu 2 matchs ce samedi avec la victoire de l'Angola 3-0 face à la Namibie. Un doublé de Jelson Dalla et un but extraordinaire de Mabouloulou. Est-ce que tu l'as vu ce but ?
Non, je ne l'ai
tu
pas
l'as
vu.
Pas vu. Une extraordinaire course de 30 mètres de Mabouloulou qui arrive aux abords de la surface et qui sort un but à la Scorero. Si vous avez la référence, un extraordinaire ballon lifté pour contourner le gardien. Je vous conjure d'aller voir ce but. Le Nigeria s'est ensuite qualifié face au Cameroun. Désolé mes amis camerounais qui étaient confiants avant ce match, mais voilà, victoire 2-0 du Nigeria avec un très bon Lookman encore, il faut préciser. Lookman qui est très bon en début de saison en Serie A et qui l'assure dans cette CAN. Et hier, dimanche, on a eu la victoire de la Guinée face à la Guinée équatoriale. Un extraordinaire match aussi, avec un match sorti jusqu'au bout, un but à la 97e minute de Mohamed Bayo. Et des Guinéens qui ont célébré pendant 2 minutes ce but. Vraiment, ils sont allés à côté de la tribune, ils ont chanté avec les supporters, ça faisait plaisir. Le coach de la Guinée équatoriale, je ne sais pas comment il s'appelait, mais moi, il m'a tué avec ses têtes. Est-ce que je l'ai, là, le coach de la Guinée ? Non, je ne l'ai pas, mais bon, il m'a fait très rire, ce coach de la Guinée équatoriale. Et hier, en fin de journée, 21h, un match tendu entre l'Égypte et la République démocratique du Congo. Deux équipes qui n'avaient pas gagné un match et qui n'avaient pas perdu un match. L'Égypte qui a fait que des 2-2 en phase de groupe, qui a réussi à se qualifier. La République démocratique du Congo qui a fait 3 matchs nuls aussi. Ça s'est conclu par un match nul.
Évidemment. Et une séance de pénalty.
Et oui, habituel. Alors pour le Congo, but. Alors j'ai plus le buteur, c'était une passe décisive de Johan Evissa sur un petit centre. J'ai plus le buteur du Congo. Mais pour l'Égypte, c'était un but sur pénalty de Mostafa Mohamed. Après un pénalty récupéré par Egazi, le capitaine expérimenté. Et finalement, en pénalty, alors on a vu un loupé de chaque côté lors des deuxièmes tireurs, mais ensuite ça s'est tenu tête. L'Égypte qui a pris un carton rouge par Hamdi, je crois.
Ouais, Hamdi Chiraf. Ouais.
2 cartons jaunes. Et c'est allé jusqu'au goal, jusqu'au dernier tireur. Lionel Mpassi de Rodez face à Gabaski, le héros égyptien. Gabaski qui a mis son pénalty sur la transversale. Alors, moi, je suis habitué à le dire. En général, quand on tire à pénalty en faisant des petites foulées comme ça, c'est qu'on n'est pas sûr. On se souvient du penalty de Zaza avec sa course en montée de genoux.
Vous avez fait bien rigoler.
Pendant l'Euro. Et voilà, Gabaski qui met son penalty dans la transversale. Et ensuite, Mpassi qui fait un bon début de saison avec Rodez. On l'a vu, le petit sourire de Mpassi avant de tirer le penalty et d'envoyer son pays en quart de finale. Alors aujourd'hui, on a Cap-Vert-Mauritanie, c'est ça, à 18h, je vous l'ai annoncé tout à l'heure. Et à 21h, un Sénégal-Côte d'Ivoire, gros Sénégal-Côte d'Ivoire aussi, avec Nigeria-Cameroun et Sénégal-Côte d'Ivoire. On est servi en grosse affiche.
Ouais, une belle affiche.
Ouais. De finale, ouais. Et mardi, le Mali affronte le Burkina Faso dans un gros match aussi. Et enfin, le Maroc a tiré l'Afrique du Sud. Ça peut sembler comme un tirage un peu facile pour le Maroc, mais il faudra s'accrocher face à des Sud-Africains qui auront envie de faire comme les copains rugbymen. Et bon, on finit avec cette Coupe d'Asie. On va aller vite pour cette Coupe d'Asie. On a notamment vu la belle histoire de la Palestine qui, malgré le conflit, a réussi à sortir de sa phase de groupe. 4 points pour la Palestine, dont une victoire face aux Émirats Arabes Unis, me semble, qu'ils avaient gagné. Notamment, j'avais lu un beau papier de Romain Molina et Kevin Weisser sur cette équipe de la Palestine qui montrait leurs difficultés pour s'entraîner, mais aussi que le peuple palestinien aimait beaucoup le foot et comptait sur cette équipe à la Coupe d'Asie. Dans un autre groupe, on a vu l'Irak qui a battu le Japon. Grosse victoire des Irakiens de Zidane Iqbal, et puisque le meilleur joueur de cet Irak a comme prénom Zidane. On a vu la référence. Le Bahreïn aussi, surprise, Bahreïn, premier de son groupe pour un tout petit pays, et l'Ouzbékistan de Abdoukodir Khoussanov, le joueur de RC Lens, qui sort aussi de cette phase de groupe. Et pour les huitièmes de finale, alors il y en a un qui se joue en ce moment même. Là, je ne l'ai plus, le match qui se joue en ce moment même de la Coupe d'Asie, mais il y a un match en ce moment même, il y aura un match à 17h. Demain, l'Ouzbékistan affronte la Thaïlande et l'Arabie Saoudite affronte la Corée du Sud. Mercredi, le Bahreïn affronte le Japon et l'Iran, la Syrie. Et hier, on a vu la grosse victoire des Australiens 4-0. Les Australiens qui dominent clairement toutes les autres équipes.
Favoris avec le Japon.
Ouais. Et la victoire du Tadjikistan au pénalty face à Ozenira Ravini. Voilà, on vous en aura parlé du Tadjikistan lors de cette émission radio. Mais au-delà d'aller au Tadjikistan, on n'a pas besoin d'aller si loin pour faire de la formation. Et Baptiste va nous parler du récap palois,
oui.
de notre actualité locale.
C'est le rendez-vous incontournable maintenant. Donc on va continuer avec le foot. Le Pau FC qui a fait match nul ce week-end face à Annecy 0-0. Match pas passionnant à regarder. Prochain match, ce sera le Auxerre qui est le leader provisoire avant le match de ce soir entre Angers et Bordeaux. Pau, j'ai envie de dire, retrouve une place habituelle au classement en étant 9e. Le maintien semble assuré, donc une fin de saison un peu moins intéressante à jouer. Pour la section paloise, c'est une défaite chez la Lanterne Rouge Montpellier, 22-17. Il ramène quand même de ce déplacement en héros le point de bonus défensif. Ce week-end, c'est la réception du CO pour reprendre sa marche en avant pour la course au top 5. Avec la victoire du Stade Toulousain hier au Racing, les Palois sont 6e au classement. Et tu nous as parlé de la Champions Cup tout à l'heure. Pau est encore en lice en Challenge Cup, la deuxième Coupe d'Europe. Et ils vont recevoir le 7 avril, c'est le Connacht qui se déplacera.
Le Connacht.
Connacht qui se déplacera au Hameau. Lille en Béarnais. Vendredi, c'est une victoire chez le dernier, Fos-sur-Mer, 97-90 après prolongation. C'est la deuxième victoire de rang, après celle acquise au Palais des Sports contre Nantes vendredi 19 janvier. Demain soir, c'est match au Palais des Sports, toujours avec un concurrent direct à la montée, un match contre Orléans, coup d'envoi à 20h. Et les Lambernais, qualifiés pour la Coupe de France, ils joueront Gravelines le 14 février. Et pour Bilière, on va finir avec Bilière, le Hand, ils ont fait des matchs amicaux avant la reprise le 2 février. Elle arrive bientôt, la reprise.
Est-ce que Bilière va s'inspirer de l'équipe de France?
Ah ben, je leur souhaite, écoute. Ouais. Je leur souhaite.
Et puis on espère voir du monde dans ces tribunes de handball suite à ce titre.
Ouais, oui, bon après généralement c'est souvent plein quand même au Sporting Net, donc bon.
Mais bravo à eux. Alors voilà, on est désolé, 40 minutes c'est long, mais c'est en même temps très court pour parler d'informations, on n'a pas pu vous parler de tout ce qu'on aurait aimé. Mais on va donc se dire au revoir.
Merci de nous écouter et au revoir à la prochaine.
Ouais, merci de nous écouter dans ces émissions. Et allez, bisous. Bisous tout le monde.